Retrouvez toute votre actualité Tarn et Aveyron sur Radioménergie. L'invité de Frédéric Deljarry.
Il est midi en ce vendredi 23 novembre 2018 sur Radioménergie. Nous revenons sur l'invité du jour, la députée du Tarn, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée En Marche. Frédéric Deljarry, bonjour.
Bonjour JC, bonjour à tous. Rappelons que Marie-Christine Verdier-Jouclas est députée de la deuxième circonscription du Tarn, Albi Carmaux, élue depuis un an et demi. Bien sûr, aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, nous allons exclusivement parler de la très forte mobilisation des Gilets jaunes. Très forte mobilisation dans tout le département du Tarn et tout particulièrement dans les deux principales villes, Albi et Castres.
Merci Frédéric. Tout de suite, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn, En Marche, au micro de Gérald de Piccioli et Frédéric Deljarry.
Donc nous avons la chance, j'ai envie de dire, compte tenu de l'actualité en ce moment, nous avons la chance d'avoir la députée du Tarn, la députée de la circonscription Albi Carmaux avec nous. Donc c'est pas la première fois d'ailleurs que vous répondez à notre antenne. Marie-Christine Verdier-Jouclas qui est donc avec nous ce matin. D'abord merci d'avoir accepté cette invitation.
Mais merci à vous de me donner la possibilité de m'exprimer.
Et merci encore une fois à vous de votre courage et d'être là aujourd'hui, de faire front. Nous allons donc rentrer dans le vif du sujet. Vous avez conscience, je pense, en ce moment, des difficultés particulières que vous êtes en train de vivre. C'est, il faut le dire, assez historique. Dans la 5e République de l'histoire de notre pays, de l'histoire de France, on est en train de vivre des événements historiques. Demain est un grand jour, samedi 24 novembre. Dans le département du Tarn, les gilets jaunes sont particulièrement présents. Alors moi, dans le cadre de mon métier, tous les jours, j'ai l'impression que, par exemple, Castres-Albi, c'est presque 3 heures de route, etc. Donc, il y a une vraie mobilisation. Est-ce que vous, en tant que député, qui êtes à la fois une élue nationale et donc une élue locale, c'est la particularité du mandat de député, puisque vous représentez une circonscription au niveau de l'État, donc vous êtes aussi une élue locale, est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez ce malaise? On peut parler d'un malaise, d'une détresse en tout cas, puisque n'oublions pas que les Gilets jaunes sont soutenus par une très large majorité de Français, seulement 10% se prononcent contre eux, donc contre leur mouvement. Donc est-ce que vous comprenez ce malaise? Est-ce que vous le captez, vous, ça?
Mais je le capte d'autant plus, et je vais même pas dire je vais dire nous. Nous le captons d'autant plus que c'est pour ça qu'on s'est présenté aux élections législatives. Parce que le malaise, il date pas d'aujourd'hui. Il date de 10, voire 15, voire 20 ans, d'un immobilisme et d'une inertie de nos anciennes politiques.
On dit que c'est 40 ans de politique.
Je sais pas si c'est 40 ans, parce qu'il y a eu quand même des bonnes choses qui se sont faites. Parce qu'il y a aussi le phénomène où on se rend pas vraiment compte des choses qui sont bien dans notre pays. Si je prends le régime santé, où aujourd'hui quand même en France on peut se soigner presque gratuitement, ça c'est quand même un moment important. Ce que je veux dire, c'est que le malaise aujourd'hui, c'est pas l'augmentation de la taxe carbone. Parce que l'augmentation de la taxe carbone, c'est quoi? C'est 4 centimes sur l'essence et 6 centimes sur le diesel par litre. Donc là, c'est quoi? C'est la goutte qui fait déborder le vase.
Mais c'est la goutte d'eau, voilà.
C'est la goutte qui fait déborder le vase, qui cristallise une situation où effectivement les citoyennes et les citoyens ont l'impression qu'on ne fait rien pour eux. Et c'est là aujourd'hui où je veux m'exprimer en leur disant « mais ce n'est pas vrai ». Le souci, c'est que tout ce qu'on a pu voter depuis qu'on est en mandature ne se voit pas encore et commence à se voir maintenant. Pourquoi? Parce que le temps politique est long. Et pourquoi on fait des réformes sur réformes? Justement pour agir vite et pour que les Français se rendent compte que nous faisons tout pour augmenter leur pouvoir d'achat. Et j'ai plein d'exemples.
Donc ils se trompent alors?
Alors, c'est pas qu'ils se trompent, c'est qu'aujourd'hui, ils ne le voient pas assez et on ne communique pas assez sur ça. Mais je suis désolée, depuis fin octobre, sur toutes les feuilles de salaire des travailleurs français, il n'y a plus de cotisations sociales, maladie et chômage. Si vous rajoutez ça à la mesure d'augmentation de la prime d'activité que nous avons votée et qui est effective aussi depuis le mois d'octobre, pour un salarié qui est au SMIC, ça va faire un 13e mois. Ne me dites pas qu'un Français ne pourra pas voir qu'il a eu un 13e mois. Sauf que c'est des mesures que nous avons votées l'année dernière et qui sont appliquées à partir de maintenant. Parce que je le répète, le temps politique est long.
Oui, madame la députée, quand on fait la balance, même si ces mesures sont... sont réelles, hein, puisque sinon vous n'en parleriez pas. Mais quand on fait la balance, quand il y a la taxe, l'augmentation des taxes, la pression toujours plus sur les citoyens.
Quelle augmentation des taxes? Aujourd'hui, nous avons voté pour 2019 une baisse de 6 milliards d'impôts. Donc il y a les exonérations des cotisations sociales, il y a la défiscalisation des heures supplémentaires, on sait très bien que les Français font des heures supplémentaires, ça fait 11% de plus de salaire par heure travaillée. On a augmenté les minimums sociaux, parce qu'on nous dit que vous n'augmentez pas. Mais si, on a augmenté l'allocation adulte handicapé, on a augmenté le minimum vieillesse. On a diminué la taxe d'habitation. Pour les Tarnais, c'est 83% des personnes qui sont imposées à la taxe d'habitation qui ont vu leur taxe diminuer de 30% et ça continuera l'année suivante.
Oui, vous savez bien que les municipalités, du coup,
ils n'ont pas augmenté de 30%. la commune qui a augmenté sa taxe le plus de façon éhontée, c'est une commune en Corse qui a augmenté de 15%. En moyenne, les communes qui ont augmenté leur taxe d'habitation, elles l'ont augmenté de 2%. 30% moins 2%, ça fait 28%. Moi, j'ai des citoyens qui m'ont renvoyé leur taxe d'habitation en me disant « Vous aviez raison, merci ». Mais tout ça, on ne communique pas assez, ça ne se sait pas assez. On fait tout pour que chaque Français puisse vivre dignement de son travail. On a voté la loi pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent vivre de leur travail. C'est la fameuse loi Egalim avec la contractualisation. On a voté des baisses de charges pour les patrons, pour qu'ils puissent, à partir du 1er janvier, ou augmenter le salaire de leurs travailleurs, ou embaucher. Pourquoi ? Parce qu'il faut réduire le chômage. Pourquoi il faut réduire le chômage ? Parce que c'est comme ça qu'on sortira les gens de la précarité. Après, c'est vrai qu'on a des positions fermes. On ne veut pas augmenter le RSA parce qu'on préfère sortir les gens du RSA. On investit 15 milliards dans la formation pour ramener les gens très éloignés de l'emploi pour qu'ils puissent effectivement trouver un boulot. Vous avez 1 300 000 de jeunes qui sont sans formation et sans diplôme. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ? C'est la misère. Alors moi, je la comprends très bien, la colère des citoyens, que ce soit les Tarnais ou que ce soit peu importe le département. Mais elle ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est que...
Oui, mais ça n'a pas l'air de s'arranger.
Mais c'est pas...
S'ils tirent la sonnette d'alarme, nos concitoyens, c'est qu'il y a quand même un souci.
On ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas nous demander en 18 mois de rattraper 10 ans, 15 ans ou 20 ans de mesurette. Pourquoi Emmanuel Macron a été élu ? Pourquoi il leur a donné la majorité ? Parce qu'ils ont eu l'espoir que ça pouvait changer. On tient le cap.
Non, madame la députée, la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron fait 23% au premier tour. L'erreur, elle vient peut-être de là. Quand Jacques Chirac a été réélu en 2002, il fait 20% au premier tour. À peu près le même score, un peu moins même, qu'Emmanuel Macron. C'était une réélection. Et il a fait preuve d'énormément d'humilité, je m'en souviens, j'étais pourtant très jeune, parce que Jacques Chirac avait conscience qu'il avait gagné au second tour sur une élection particulière, parce que face à Le Pen, perd, et donc barrage.
On est d'accord, mais
faisons preuve d'humilité, parce que élu face au barrage contre le Front National. Est-ce que vous n'avez pas vécu la même chose face à Marine Le Pen ?
Non, mais attendez.
Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour vous pour éviter Marine Le Pen.
Sauf qu'au premier tour, le PS est arrivé en quatrième position. Vous ne pouvez pas dire ça. Je peux l'entendre.
Mais je suis d'accord. Mais c'était pareil en 2002.
Pour les élections présidentielles,
mais beaucoup de gens votaient pour vous pour faire barrage au Rassemblement National, au Front National.
Je ne dis pas le contraire.
Donc les gens
vous faites 23 au premier, 66 au second.
Mais peu importe.
Il y a des gens qui ont voté pour vous pour éviter Marine Le Pen. C'est une réalité quand même ça.
Les gens ont quand même mis de l'espoir en nous, que je comprends. Parce que je faisais partie de ces gens aussi qui en avaient ras-le-bol de voir les politiques privilégier leur intérêt personnel plutôt que l'intérêt collectif.
Je ne dis pas le contraire. Ce que je dis juste, c'est qu'il faut faire
preuve
d'humilité.
Mais on fait
quand on gagne face à Le Pen.
Mais tout ce qu'on fait depuis le départ, c'est pour sortir justement les Françaises et les Français de la situation où ils ont été mis pendant des années parce qu'on n'a fait que des mesurettes. Il faut qu'on réforme le pays en profondeur. C'est que comme ça qu'on arrivera et à éviter effectivement que la prochaine fois, ce soit Marine Le Pen qui soit au pouvoir. Et ça, ça serait pire que
Mais il ne faut pas que ça devienne un chantage,
et là,
ça, par contre.
Non. Et là, je condamne les oppositions. Et je les condamne vraiment.
Facile, ça.
Très, très vertement, je condamne les oppositions parce qu'elles surfent aujourd'hui sur la souffrance et la colère des citoyens. Quand vous avez le président du conseil départemental du Tarn qui fait voter un moratoire pour qu'on annule les taxes pendant...
C'est-à-dire... Est-ce que vous avez eu l'occasion de passer un barrage et de lire ce qui est écrit sur tous les gilets jaunes ?
Oui.
C'est pas seulement la taxe carbone, hein ?
Oui, il me dit...
Vous pouvez me dire pourquoi ils sont aujourd'hui manifestes ?
Parce qu'ils ont l'impression qu'on ne les entend pas, ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas. Alors,
mais ils s'en sont rendus compte.
Non, enfin, le souci, si vous voulez, c'est que, moi, je vous ai dit, on fait exonération... Enfin, moi, c'est du concret. Oui. Un 13e mois pour un salarié au SMIC, c'est pas du concret, ça. Exonération de la taxe d'habitation, c'est pas du concret. Reste à charge zéro.
Elle n'est pas exonérée pour l'instant totalement.
Mais 30%, 35%. Et pourquoi ? Et pourquoi elle n'est pas exonérée totalement ? Parce qu'on aurait bien aimé le faire. Hein, parce qu'on a un pays qui est endetté.
Partiellement pour l'instant.
Mais parce qu'on a un pays qui est endetté et qu'on est obligé de faire avec les contraintes financières qu'on a et qu'on a découvert.
D'accord.
Et parce qu'on veut respecter nos engagements européens. Oui. Donc, moi, je fais partie.
Vous ne pouvez pas dire qu'elle est exonérée totalement ?
Non, elle est exonérée à 30%, 35% l'année prochaine. Et en 2020, tout le monde sera exonéré. C'est un engagement et on l'a voté. Ce que je veux dire, c'est que.
À condition qu'il n'y ait pas une autre taxe qui vient de se substituer.
Dites-moi, quelle taxe ? Dites-moi, mais il n'y aura pas de taxe. Et ça, c'est un engagement qui a été pris. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle fiscalité locale pour que les collectivités puissent avoir une autonomie financière, parce que c'est important. Parce que ça aussi, les maires, on ne leur a pas baissé les dotations. Ils continuent, c'est la première année depuis 2012 où on leur a pas baissé leur dotation. Et ils peuvent, ils ont pu avoir leur DGF, comme on appelle, identique, voire augmenté. Alors, en dehors de la péréquation, mais qui date de la loi NOTRe. La loi NOTRe, c'est le gouvernement précédent qui l'a votée. On subit les conséquences de la loi NOTRe. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, les communes ont besoin d'avoir une fiscalité locale propre. Il faut qu'elle soit autonome. Il ne faut pas qu'elle soit sous la tutelle de l'État. Donc, en mars-avril, il va y avoir une réforme sur la fiscalité locale. Pour que effectivement on réfléchisse ensemble comment leur donner une fiscalité, mais ça ne sera pas le contribuable qui va la payer, ça c'est sûr, et c'est un engagement qui a été pris. Il y a des pistes. C'est une partie de la taxe foncière, une partie de la TVA. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails.
Une bonne piste, puisque il y a une majorité de maires qui démissionnent.
La moitié qui ne veulent pas se représenter.
Oui, et moi je connais notre moitié qui veulent et ça a été dit hier à l'Élysée. Et il y a plein de personnes qui ont envie aussi de partir. Il faut faire attention aussi au message. Mais je voudrais qu'on revienne sur l'essentiel parce qu'on parle des gilets jaunes. Moi, je comprends très bien, parce que je faisais partie de ces gens-là avant de partir candidat à la législation, des gens qui en avaient marre. Donc je le sais. Et pourquoi je suis partie? Parce que je crois en ce programme. Parce que ce programme, il va vraiment réformer profondément le pays pour que tout le monde y trouve son compte. Il faut nous laisser juste un peu de temps.
Mais donc...
Donc je le comprends d'autant mieux qu'on était presque sur un champ de ruines et qu'aujourd'hui, on est en train de reconstruire une maison. Mais un bon architecte, vous commencez jamais par le toit. Vous commencez par les bases, les fondations, pour qu'elles soient solides. C'est quoi les fondations du programme d'Emmanuel Macron? C'est permettre aux entreprises d'embaucher, de ramener les gens à l'emploi. Donc, un grand programme de formation, une baisse des charges pour les entreprises pour qu'elles puissent ou augmenter les salaires ou embaucher. Ensuite, c'est remettre les gens au niveau où ils peuvent être, c'est-à-dire valoriser l'apprentissage. Il y en a marre de faire des bacs plus 4, ça ne sert à rien. En plus, il y a des étudiants, aujourd'hui, il y en a 1 300 000 qui sont au chômage. Donc c'est vraiment, voilà, c'est moi je considère que le programme pour lequel je suis partie, c'est un train. Avec des wagons, il faut que tous les wagons soient allumés pour que le train puisse démarrer. On est sur les fondations. Et ce n'est pas la taxe qui va régler le problème des Français aujourd'hui. Ce n'est pas ça le vrai problème.
Vous savez qu'aujourd'hui, on construit aussi des maisons sur des terrains qui ne sont pas stables.
Et ça, c'est la géopolitique.
Vous avez une vraie colère et des gens qui sont malheureux. Pleines de souffrance.
Mais je les connaissais d'avant.
Parce qu'ils n'arrivent pas à payer l'essence de leur voiture pour aller travailler, seulement pour aller travailler.
Et alors pourquoi?
Ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Des familles qui souffrent avec des enfants.
Et ça ne date pas d'aujourd'hui.
C'est très grave.
Ça ne date pas d'aujourd'hui, gens, madame, mon ancien métier. Je les voyais, ces gens-là.
Les gilets jaunes ne seraient pas là s'il n'y avait pas un vrai problème.
Alors, vous dites que ça ne date pas d'aujourd'hui. À partir du moment que ça arrive maintenant, c'est vous qui êtes aux affaires. Les gens, vous, monsieur Castaner, monsieur le Premier ministre et monsieur le Président de la République, les gens ont besoin de sentir qu'ils sont entendus, qu'ils sont écoutés, qu'on ne les traite pas de voyous, qu'on ne les traite pas. Il ne faudrait pas que ce soit le monde à l'inverse. Je vais vous dire pourquoi.
Les gens de voyous,
je ne parle pas pour vous.
Peu importe,
vous représentez actuellement pour nous la couleur gouvernementale, la majorité gouvernementale. Je ne parle pas évidemment pour vous, mais la majorité que vous représentez. Quand cet été, vous avez le Président de la République qui se fait prendre en photo par deux jeunes, que vous avez un jeune qui lui fait un doigt. Il peut très bien, effectivement, le président expliquer, on ne peut pas tout maîtriser, etc. Mais il répond, alors qu'on sait que ce sont des voyous, on l'a vérifié après, les médias nationaux, ce sont des voyous. Ils ont un parcours de voyous. Il y en a un des deux, en tout cas. Il répond, ce sont des enfants de la République. Même ceux qui ont été voyous, ce sont des enfants de la République, on est là pour les aider. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des citoyens français de toute origine dans la rue, de toute couleur de peau, de tout style, mais des gens qui jouent le jeu, qui ne sont pas voyous, qui a juste tire la sonnette d'alarme, ils n'en peuvent plus. Est-ce que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ne pourraient pas leur dire qu'ils comprennent leur souffrance, que ce sont des enfants de la République eux aussi? Il ne faudrait pas qu'on soit dans le monde à l'envers, dans les messages qu'on envoie. Je parle de communication, vous le faites vous-même, ce mea culpa. Vous dites peut-être on commet des erreurs de communication. Monsieur Castaner, quand il parle, on a l'impression qu'il parle à des voyous. Et quand vous parlez aux voyous, on a l'impression que vous essayez d'expliquer aux gens, ce sont des enfants de la République, il faut les aimer. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi aimer les honnêtes citoyens, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, ceux qui jouent le jeu? Parce que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui sont soutenus par plus de 70% de la population, que seulement 10% sont contre eux, ça veut tout dire. C'est un baromètre. Ça veut dire que les gens se reconnaissent dans ce mouvement. Et c'est vrai que quand vous passez au barrage, vous voyez que ce sont d'honnêtes citoyens. Non, mais dans le lot, il peut y avoir quelques tarés, mais comme partout.
Plusieurs choses dans ce que vous dites. Deux morts.
C'est pas pour vous embêter que je dis ça.
Deux morts et des centaines de blessés.
En mai 68, quand il y a eu des morts, est-ce que c'est la faute des manifestants? Est-ce que c'est la faute des manifestants? En 1789, quand il y a eu des morts.
Parler, ou on arrête là. Je vous dis deux morts, des centaines de blessés.
Oui, mais bon.
D'accord. Pourquoi? parce qu'il y a des manifestations qui n'ont pas été déclarées. Que vous le vouliez ou non, ça, ce n'est pas acceptable. Le droit de manifester en France, il est donné, on a la chance d'être dans un pays démocratique. Et ça, qu'il y ait eu 2 morts et des centaines de blessés, ce n'est pas acceptable. Donc les gens ont le droit de manifester, ils ont le droit de se faire entendre, et on les entend. Ça, il n'y a pas de souci. On continue à faire les réformes qu'on fait, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on les sortira de la précarité. Faire croire aux gens que de supprimer la taxe des carburants, ça va les aider dans leur quotidien, mais je suis désolée, c'est n'importe quoi. Pourquoi je dis ça ? Pendant des années, on a supprimé les bus, on a supprimé les trains. C'est-à-dire qu'on a obligé les Français à prendre leur voiture pour aller travailler. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a un problème de transition écologique. On veut y aller, on ne veut pas y aller. Parce que quand on dit on est contre le glyphosate, on n'en a rien à fiche. Finalement, ça ne concerne que les agriculteurs. Les fines particules, ça concerne tout le monde. Et les voitures, ça concerne tout le monde. Et là, vous avez les gens dans la rue. Vous avez eu des gens dans la rue pour le glyphosate ? Non. Je suis désolée, c'est pareil.
Non, mais là, c'est la
on veut aller vers la transition énergétique ou pas. Bien Donc sûr. Si on veut y aller, il faut continuer cette trajectoire. Mais on ne peut pas changer de pied chaque fois qu'on change de majorité.
Comment vous comptez vous y prendre pour faire cesser ces barrages ? Parce que.
Alors moi, c'est pas
ça. Ça gêne tout le monde.
Mais cesser les barrages.
Au bout, ça gêne tout le monde.
Il faut que les citoyennes et les citoyens
entendent
toutes les mesures de compensation qu'on met pour les aider à se débarrasser justement de ces véhicules. On ne veut pas les empêcher de continuer à aller travailler. Au contraire, on veut qu'ils aillent plus travailler. On a entendu les gilets jaunes et du coup, on a mis des mesures supplémentaires. On est en train de faire du lobbying auprès des banques pour leur demander d'accorder des crédits pour que effectivement les gens puissent changer leur véhicule. Pourquoi ? Parce que je le répète, leur faire croire que moi, on veut bien la supprimer la taxe, mais ça ne sert à rien. Le baril ne va pas cesser d'augmenter.
Non, mais si vous le faites baril moins de ne mesures va pas cesser d'augmenter. Et moins de taxes, je pense que ça irait mieux.
Mais le problème, c'est, dites-moi quelle taxe on a mis. Je vous prends au mot, dites-moi quelle taxe depuis qu'on est au pouvoir qu'on a mis. Dites-moi.
Ce que je sais, c'est que quand je regarde, je lis les gens qui s'informent sur le revenu moyen du citoyen lambda français, ils gagnent de moins en moins d'argent.
Mais
parce qu'il y a des taxes.
J'ai vu une étude, moi, où ils gagnent 600 euros de moins, c'est dans des années jusqu'en 2014. On est en 2018. Oui. Depuis, rien vu. Quelle taxe on a mis ? Je peux vous répondre. Vous pouvez vérifier.
Carbone.
4 centimes par litre pour l'essence, pour l'essence, quand 7 centimes par litre
pour diesel. 70 km de chez vous.
3,50 €.
Vous êtes député du
Tarn. 4 allers-retours.
3,50 € pour un plein, je le sais. Mais ce n'est pas ça qui cristallise la situation. Ce n'est pas en rendant 3,50 € qu'on va aider les Français à sortir de la situation où ils sont. Par contre, un 13e mois, ça ne vous parle pas. Enfin, je ne sais pas, moi. C'est là où je ne comprends pas. Et quand je vous dis qu'on communique mal, c'est parce qu'on n'arrive pas à montrer aux citoyens tout ce qu'on fait pour eux. Le tract que vous avez sous les yeux, c'est quand même clair. Quelle taxe on a mis en dehors de la taxe carbone ? Ce n'est même pas nous qui l'avons mis. On la maintient, c'est le précédent gouvernement, parce qu'on y croit. Quelle taxe on a mis ? Rien. Cette année, moi, je suis commissaire des finances. J'ai appuyé sur le bouton pour pouvoir voter le budget. C'est 6 milliards d'impôts en moins pour les Français. Mais ça, c'est du concret.
C'est pas mal.
Mais oui, c'est du concret.
Ça, mais est-ce qu'il ne faut pas mieux communiquer, donc ?
Mais alors,
parce que quand on voit pendant la crise qu'on est en train de vivre au sujet des gilets jaunes, sincèrement, hein, c'est pas... Quand on vous dit ça, là, vous n'êtes pas...
Oui, mais vous parlez du national.
Vous me coupez, vous me dites de ne pas vous couper.
Non, mais...
Quand vous parlez, là, des gilets jaunes,
je parlerai
quand
pas
on
pour
entend
les
M. Castaner... Je ne parlerai pas pour les autres, mais enfin, vous faites partie de la majorité gouvernementale, on est d'accord.
Les Français, quand on entend M. Castaner, prenez, ils ne voient pas ce que vous leur donnez.
C'est
le sentiment qu'ils ont. Exactement. Et quand on voit les réponses de M. Castaner, quand on voit les réponses de M. Castaner, honnêtement, je le redis, on n'a pas l'impression, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, qu'il comprend la souffrance. Je vous dis l'impression qu'on a. On n'a pas l'impression qu'il comprend la souffrance des gens et qu'il essaie d'expliquer avec psychologie ceci. C'est toujours le problème du monde à l'envers, et c'est pas que votre gouvernement. On a toujours l'impression que pour ceux qui déraillent dans notre société, les voyous, qu'on doit pas mettre de côté non plus. Mais on a toujours l'impression que là, par contre, on fait preuve de beaucoup de tolérance, de compréhension, etc. Et puis pour les honnêtes citoyens, quelle que soit leur origine, les honnêtes citoyens français, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur âge, qui sont en train, pour une fois, là, de se réveiller, on a l'impression qu'on leur parle, circuler, il n'y a
mais
rien à voir,
vrai.
On va punir, on va sanctionner.
Mais c'est pas vrai.
C'est l'impression que ça donne, madame
peut-être.
La députée.
Mais alors moi, je vais vous donner.
Acceptez de l'entendre.
Oui, mais moi, je vais vous donner.
C'est pas méchant
autre...
quand
moi,
vous
dites
ça.
Je vais vous donner un autre exemple.
Bon, en même temps, c'est pas mal, hein, parce que.
Médias national.
Ça fait faire bientôt une semaine, on en a marre.
Médias nationaux. Plateau télé. Ah. Vous avez. Un député de la REM, 3 députés de l'opposition. Moi, quand je regarde, qu'est-ce que j'entends ? 3 voix contre une. Qu'est-ce que je ressens ? Ben que les 3 voix ont raison contre celle qui est toute seule. Aujourd'hui, comment dire ? L'équilibre des oppositions, il n'y en a plus. Avant, vous aviez la droite contre la gauche.
Alors, vous avez raison. Vous avez raison.
Aujourd'hui, vous avez La République en marche. Le gouvernement à la majorité contre toutes les oppositions.
Mais c'est vrai pour tous ceux qui ont le pouvoir.
Oui. Mais comme vous
François Hollande vivait la même chose quand il était aux affaires. Il avait 4 personnes contre lui sur un bateau.
Non,
Sarkozy aussi, qui prenait Sarkozy sur la figure.
Vous aviez la gauche qui faisait coalition, vous aviez la droite qui faisait coalition. Aujourd'hui, nous, on a la droite et la gauche. Et quand j'écoute, moi, je suis désolée, mais je me dis, ils ont raison. Parce qu'on n'entend que ça. C'est là où je vous dis qu'on n'arrive pas à communiquer. On n'arrive pas à se faire.
Et les gens, le sentiment que les médias sont plutôt sympas avec vous. Les médias nationaux, les gens, je parle des gens, ils ont le sentiment que BFM Télé...
On n'a pas à être sympa, ouais, mais sauf que quand vous regardez BFM TV, vous entendez plus de gens qui disent que... Enfin bon, bref, bon. C'est pour ça que moi j'essaye à mon niveau, et tous les députés de la majorité, on essaye de communiquer un maximum, c'est pour ça qu'on va à la rencontre des citoyens, qu'on essaye d'expliquer, c'est pour ça que j'ai fait des tracts que je vais aller distribuer, qu'il faut aller voir les gens, qu'il faut aller leur parler. Mais aujourd'hui, il faut vraiment... nous laisser un peu de temps. On est en marche, c'est pas un jeu de mots, excusez-moi, mais on est vraiment en marche pour sortir les gens de la situation où ils sont. Moi, j'ai des enfants, bientôt j'aurai des petits-enfants, j'ai envie de leur laisser une planète propre, j'ai envie qu'ils trouvent du boulot, j'ai envie que chacun vive dignement de son travail. C'est pour ça que je suis partie, j'ai jamais fait de politique. Et je crois encore à ce programme, parce qu'il est cohérent. Il est cohérent. Voilà. Donc là... maintenant.
Est-ce qu'ils se remettent en question un peu là-haut? Est-ce qu'ils entendent ça? Est-ce qu'ils entendent des élus locaux comme vous? Parce que vous êtes, on le disait à la fois, une élue nationale et locale. Vous êtes un intermédiaire pour eux. Est-ce que cette démarche-là, elle est faite? De les remettre en question un peu?
Non, le travail qu'on doit faire avec le gouvernement, le
président de la République, c'est de... parce qu'on a l'impression que leur communication
est désastreuse. C'est de les alerter sur les besoins, les attentes des Français, et d'amender des textes quand ils nous les proposent pour que ça réponde vraiment à un besoin. Ça, c'est notre job.
Oui,
après, c'est à notre majorité... à nos porte-paroles, de faire en sorte effectivement qu'on soit entendu et qu'on puisse bien communiquer. Et ça s'arrête là. Il faut simplement qu'on puisse alerter le gouvernement, et on le fait. Et de ce côté-là, on a complètement l'écoute. La preuve en est, c'est qu'on a fait avancer des textes, on a pu passer vraiment des choses qui sont plus favorables que ce qui était au départ, et on a été écouté. Et c'est des négociations constantes et qui fonctionnent. Et je crois que le rôle du député, il est là. Voilà.
Alors, après. Pour ma part, je terminerai avec une question par rapport à votre collègue et confrère Jean Lassalle, qui a. Hier, vous étiez probablement donc à l'Assemblée nationale, a mis un gilet jaune en étant quand même en costard-cravate, hein, donc en étant quand même bien habillé. Il met un gilet jaune, effectivement ça a du sens, ça veut dire quelque chose. Est-ce que vous trouvez normal qu'il ait aujourd'hui pris 1 500 € d'amende pour avoir mis un gilet jaune à l'Assemblée nationale?
Oui, parce que c'est un règlement. Alors je vais vous dire, c'est comme tout. Quand vous commencez à bafouer les règlements, ben, je suis désolée. Alors à ce moment-là, pourquoi on va sanctionner quelqu'un dans la société civile qui enfreint une règle, et pourquoi on ne sanctionnerait pas un député? Parce que justement, on est député. Le règlement de l'Assemblée nationale est strict. On ne doit pas brandir d'objets. On ne doit pas montrer du doigt. On ne doit pas interpeller quelqu'un.
Mais
non, mais
raison,
c'est un article du règlement intérieur qui dit qu'à partir du moment où c'est notifié au procès-verbal, c'est pour un mois, un quart de la rémunération.
Mais on voit aujourd'hui des députés qui mettent même plus la cravate. Mais est-ce que ça donne pas l'impression aux gilets jaunes, le fait que...
Mais parce que là, ils s'inversaient les gilets jaunes. Mais la dernière fois, c'était la France Insoumise qui ont brandi des panneaux en disant « bon débarras ».
Non, mais gilets jaunes, c'est le peuple qui se manifeste.
Mais je suis d'accord.
C'est pas
politique. Mais je suis d'accord. Mais la dernière fois, c'est la France Insoumise qui a sorti un paquet de nouilles, etc. pour nous faire montrer...
Ouais, non, mais...
Bon, il y a un règlement, Mais c'est pas contre les gilets jaunes.
D'accord.
C'est que si vous commencez à autoriser... un non-respect de règlement de l'Assemblée, ben à ce moment-là, écoutez, moi, demain, j'arrive et je fais n'importe quoi. C'est pas possible, voilà. Et c'est pas contre les gilets jaunes. Pas du tout, du tout. C'était pas ça, la sanction. C'était de dire, vous êtes député, vous appartenez à la République, vous appartenez à l'Assemblée nationale, il y a un règlement, vous devez le respecter comme les autres, justement, parce qu'un simple citoyen, lui, on va pas hésiter, justement, à le sanctionner. C'est plutôt ce message-là qu'il faut voir, et pas l'orienter vers le gilet jaune.
Bon. D'accord, mais écoutez, on arrive au terme. On vous remercie.
Je parle au nom vraiment de tous les députés de la majorité, et peut-être plus, même pas, mais c'est vrai que tous ceux qui sont issus de la société civile, on a une richesse personnelle, professionnelle, et si on est venu là, c'est pour défendre justement l'intérêt de toutes les citoyennes et tous les citoyens.
Je vous connaissais avant que vous soyez élu, je sais ça, je sais que vous êtes engagé par conviction.
Et c'est ce qu'on fait, simplement, il faut nous laisser un peu de temps, parce qu'on met tout en place, et bon sang, tout ce que je veux, c'est qu'on réussisse pour tout le monde, voilà, parce que tout le monde le mérite.
Mais je pense que les gilets jaunes veulent que vous réussissiez.
Ouais,
c'est justement pour ça qu'ils sont dans la rue aujourd'hui. Ils ont l'impression que non.
Il faut réformer à fond. Il faut nous laisser réformer à fond le pays. Il faut arrêter les mesurettes. Il faut réformer à fond, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et j'invite tous les salariés, gilets jaunes ou pas, à regarder leur feuille de salaire. Parce qu'il y a la ligne marquée. Exonération des cotisations avec le montant. Ça, c'est du concret. Voilà.
Bon. En tout cas, merci et à très bientôt sur Radio Ménergie. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci.
C'était Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée du Tarn, députée En Marche, au micro de Gérald de Piccioli et Frédéric Deljarry.
Retrouvez toute votre actualité Tarn et Aveyron sur Radio Ménergie, l'invité de Frédéric Deljarry.